La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. J'ai choisi ce matin un texte que nous connaissons tous, qui fait partie de la culture judéo-chrétienne, un texte que l'on a repris dans d'autres milieux non-croyants, Pinocchio. C'est un Jonas moderne qui a aussi été avalé par le grand poisson suite à une désobéissance. J'ai choisi ce texte parce que je trouve qu'il est un texte à la fois d'avertissement, mais aussi d'encouragement à choisir le meilleur. Qu'est-ce que je veux vivre avec Dieu? Qu'est-ce que je suis prêt à vivre avec lui? Alors, je me suis arrêté exprès à ces quatre premiers versets. Vous aurez, je l'espère, la curiosité d'aller découvrir le reste du récit et de voir ce qui se passe, mais on le connaît déjà bien. Le livre de Jonas commence par « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai ». La première réalité de la foi chrétienne, c'est que notre Dieu est un Dieu qui parle. Oh, à dire, mais c'est une phrase bateau, c'est une réalité qu'on a acceptée, intégrée, mais pourtant c'est une réalité tellement révolutionnaire. Sortez dans la rue, arrêtez quelqu'un et dites-lui, vous savez, Dieu est un Dieu qui parle. Si vous tombez sur un médecin, dans les 5 minutes qui suivent, vous êtes emmené à Charcot. Monsieur, monsieur, il entend parler Dieu. Eh oui. Et c'est pourtant la réalité de notre foi, la base de notre foi. Notre Dieu est un Dieu qui parle, et bien plus, c'est un Dieu qui veut nous parler. Nous ne croyons pas dans une idole muette, mais dans un Dieu éternel qui a choisi, décidé, et tout mis en œuvre pour qu'une relation s'établisse entre ses enfants et lui. C'est cela, la réalité. Vous vous rappelez cette première diapositive qu'il y a à tous les cultes? Ce lieu est équipé d'un système intégré. Vous n'avez pas besoin de votre portable. Vous pouvez l'éteindre parce qu'il est équipé, non pas grâce à l'antenne qui est juste en face, mais il est équipé d'un système qui permet une communication directe avec Dieu. Ouais. Dieu a tout mis en œuvre pour que cette relation existe et que cette relation existe avec une communication. Que serait une relation sans communication? Vous avez déjà vu le film Le Chat avec Jean Gabin et Simone Signoret. Ben, ce n'est pas un film pour les tout jeunes, je ne sais pas, c'est même pas en noir et blanc. Mais c'est un couple qui vit, un vieux couple, qui est en guerre permanente et ils ne se parlent pas, ils cohabitent. Sont là dans le même lieu. De temps en temps, ils se lancent des piques et puis il y a le chat qui sert de tiers. Une non-communication. Est-ce que c'est cela, ce que nous croyons être la relation de nous avec Dieu? Que serait une relation sans communication? Habacuc disait, un autre petit prophète, à quoi sert une statue pour que l'artisan la taille? Une idole de métal fondu qui enseigne le mensonge pour que l'artisan qui la façonne mette sa confiance en elle, faisant ainsi des faux dieux muets. Ah, est-ce que notre Dieu est une idole qui a été taillée par la main des hommes, fabriquée? Est-ce que Jésus-Christ est une invention? Ou est-ce que c'est la réalité du ciel et de la terre qui se rejoignent par Jésus-Christ pour que Dieu se révèle et dise je veux te parler. Je veux parler avec toi. Je veux communiquer avec toi. Et les premiers mots de ce livre de Jonas, ce sont des mots révolutionnaires. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Dieu a parlé à Jonas comme il désire aussi parler à chacun d'entre nous. La place de la parole est si prépondérante dans le plan de salut divin que le prologue de l'évangile de Jean, qui est un texte, je trouve, essentiel, nous présente le Sauveur comme la parole incarnée. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est révolutionnaire, un Dieu qui parle. C'est révolutionnaire, un Dieu qui se fait parole incarnée pour communiquer aux hommes qui il est, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut faire dans ma vie et dans chacune de notre vie. C'est révolutionnaire d'entendre Jean présenter ce Sauveur comme la parole incarnée, le Logos divin au milieu des hommes. J'ai un Dieu qui me parle. Et on ne peut pas, je dis toujours, on ne peut pas lire le prologue de l'évangile de Jean sans relire le prologue de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et la parole dit que la lumière soit. Pour moi, ces deux textes se rejoignent et disent que la lumière soit. Et quand l'évangile de Jean commence, elle ne dit pas autre chose. Que la lumière soit dans ce monde de ténèbres. Que la lumière soit dans ta vie, afin que tu puisses découvrir ce que tu es, ce dont tu as besoin et ce que Dieu peut t'apporter. Que la lumière soit. Et la parole vient apporter cette lumière. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, ouais. Parce que la vie trouve sa source dans le Verbe de Dieu. La vie nouvelle qui se répand dans nos vies est le fruit de cette parole qui nous rencontre. Si nous ne sommes pas rencontrés par la parole incarnée, si nous ne sommes pas rencontrés jour après jour par cette parole que nous lisons, alors la vie ne peut pas naître. Là aussi, nous sommes dans nos vies confronté à l'œuvre de la Genèse. Du chaos, la parole peut établir un monde construit, organisé, lumineux. Est-ce que nous l'avons vécu? Si nous ne l'avons pas vécu, ou si notre vie est encore dans le chaos, nous pouvons le vivre. Demandons à ce que la parole de Dieu nous rencontre et transforme notre chaos en monde selon la pensée de Dieu. Un Dieu créateur qui d'un mot génère la vie en nous. C'est encore possible aujourd'hui, vous savez. On a l'impression, oui, maintenant tout est fait. On pourrait même prendre la parole de Christ sur la croix, tout est accompli. Non, il est possible que la vie de Dieu, la parole de Dieu, génère la vie en nous. Aujourd'hui encore, dans ce qui est mort, que cette parole devienne vivante. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. J'aime bien le petit mot « à ». Là, je parle à qui? Chacun d'entre vous? La parole de Dieu, c'est aussi une parole qui cherche son interlocuteur. Dieu ne parle pas globalement, il parle à. Il a parlé à Jonas, de manière claire. Et qu'est-ce que nous faisons quand Dieu parle? On voit la réaction de Jonas qui, devant la parole de l'Éternel, décide de tourner les talons et de s'éloigner. La parole de l'Éternel fut adressée à. Et si nous mettions notre nom ou notre prénom, combien de fois l'Éternel Dieu a-t-il cherché à nous parler? Il y a des fois où on a capté. Et puis il y a des fois, il nous parle, on essaye, il essaye de nous joindre, puis il n'y a pas de réseau. On n'est pas au bon endroit, vous savez. Moi, dans mon travail, à mon bureau, on essaye souvent de me joindre sur mon portable. Et Cœur-du-Dos, c'est un endroit terrible parce qu'on a un très mauvais réseau. Alors quand on essaye de me joindre, ça crachote, etc. On n'entend pas très très bien l'autre, l'interlocuteur. Il en va de même avec le Seigneur. Il est des moments où Dieu veut nous parler, il nous parle à moi. Et je n'ai pas un bon réseau avec lui. alors la communication est assurée, brouillée.
Mm-hmm.
Combien de fois Dieu a-t-il souhaité nous parler ? Veut-il nous parler ? C'est Job qui dit ceci. Moi, j'aime beaucoup cette parole de Job au chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y fait pas attention. Est-ce que nous ne sommes pas des interlocuteurs de cette nature vis-à-vis de Dieu? En hébreu, c'est Dieu parle une fois et une seconde fois et on ne le regarde pas. C'est-à-dire qu'on n'y fait pas attention. Il parle une fois, puis il rappelle, une deuxième fois, d'une autre manière, et puis on ne fait pas attention. On ne regarde pas à ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que ce n'est pas notre témoignage aussi d'humanité? Cette capacité à ne pas être un bon récepteur, à ne pas capter. Et pourtant, ce n'est pas faute. Et lorsque Job parle de cette manière-là, il est en train de parler d'un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce. C'est ce que j'ai dit souvent à des frères pasteurs qui ont prôné parfois des choix en se disant, mais si on passe à côté, Dieu... On va louper la grâce de Dieu, on va louper l'action de Dieu. Il faut aller à Toronto, il faut aller à Pensacola, il faut aller à Séoul. J'avais un ami pasteur, qui est maintenant très âgé, mais on l'avait rencontré avec Francine, et il avait 3 numéros de son journal d'église. Sur le premier, il était pris en photo, en première page, là, à Séoul. Sur le deuxième, il était au Canada, là, à Toronto, et sur le troisième numéro de l'église, il était à Pensacola. J'ai dit, tiens, il est allé partout. Et certains de mes frères pasteurs me disaient, mais et si on ratait, Dieu nous dit, c'est là que ça se passe. Et moi, je disais toujours, mais vous savez, moi, j'ai une telle connaissance d'un Dieu de grâce, parce que il me parle, et si jamais je ratais, il me parle une deuxième fois. J'y crois, je crois que Dieu est un Dieu de grâce. Maintenant, il ne faut pas faire un jeu non plus. Et est-ce que parfois, nous n'avons pas aussi un fonctionnement où nous fermons notre écoute et nous ne laissons pas Dieu nous parler? Oh, nous avons beau être charismatiques, être baptisés du Saint-Esprit, on n'en est pas pour autant des auditeurs plus efficaces. Dieu nous parle parfois d'une manière, tantôt d'une autre, ça veut dire qu'il met de la constance à vouloir communiquer avec chacun d'entre nous. Mais nous n'y faisons pas attention tout le temps. Est-ce qu'on peut aiguiser son écoute? Récemment, je connais quelqu'un qui, quand je lui parlais, ça ne passait pas. Elle me regardait, mais même à 2 mètres. Du coup, j'ai réalisé qu'elle était appareillée. Mais que l'appareil avait une pile qui était déchargée. Et donc, quand elle me fixait, elle avait beau tendre l'oreille, entre guillemets, comme on dit, elle ne m'écoutait pas, elle ne m'entendait pas, jusqu'à ce qu'on change la pile. Est-ce qu'il n'y a pas parfois besoin de changer nos piles, hein, de rendre plus sensible notre écoute vis-à-vis du Seigneur? Dieu parle de manière individuelle. Est-ce que tu as conscience que Dieu te parle? Est-ce que tu as conscience que Dieu veut te parler personnellement, là, maintenant? Et je me parle à moi-même en le disant. Hein, dans le secret de ta chambre, dans la lecture de la parole, dans l'écoute de la prédication, dans les circonstances de ta vie au quotidien, est-ce que tu as le sentiment que, quelque part, Dieu veut véritablement te parler? Hier, nous étions en train de rentrer de l'Assemblée Générale de l'Église Apostolique. Nous y étions avec Corinne et avec Hervé. Et puis j'achète souvent le journal avant de monter dans le train, et notamment un journal de fond qui traite des choses de manière sérieuse, L'Équipe. Pour ceux qui ne connaissent pas L'Équipe, c'est un journal politique qui traite de tout le sport. Et dans ce journal-là, il y avait un témoignage, et on l'a lu ensemble avec Hervé, parce qu'il était étonnant. C'est le témoignage d'un très grand footballeur français qui, le mois dernier, aux alentours du 15-20, était du côté de Nice et jouait au ballon avec d'autres sportifs, des amis, etc. Et en plein match, il s'écroule sur le terrain, crise cardiaque. Et l'article disait combien, je dirais, les choses peuvent tenir à des détails pour la vie ou pour la mort. Il disait que le matin même, une infirmière qui travaillait sur Nice était dans un immeuble et devait intervenir. Elle était infirmière et volontaire pour les pompiers. Et elle est intervenue dans un appartement pour des soins et intervenir auprès d'une personne âgée. Et puis, comme le fond m'a expliqué Hervé, tout de suite, quand on arrive quelque part, on regarde les extérieurs, les escaliers, le passage, etc. Et donc, cette femme fait cela. Elle va sur la sortie de secours, elle regarde par la fenêtre, et puis, jette un coup d'œil. Et tout à coup, elle dit à la personne qui était dans l'appartement auprès duquel elle intervenait, « Ah tiens, vous avez un terrain de foot dans votre résidence. » Et l'autre lui dit, « Non, ce n'est pas un terrain de foot, c'est de la résidence, ça appartient à la personne qui a... » C'est une petite phrase toute simple. Mais elle a regardé, elle a vu, elle a posé la question. Et puis elle est repartie, puis elle avait qu'à ses occupations, elle est intervenue ailleurs. Et puis quand ce footballeur est tombé avec cette crise cardiaque, il y a une somme de circonstances qui se sont mises en place, puisqu'en fait, l'appel a été fait aux pompiers, cette femme a reçu l'appel, et en allant là-bas, elle s'est rappelée du terrain de foot, par où il fallait passer, et elle a même appelé l'hélicoptère en disant « Mais vous pouvez venir avec l'hélicoptère parce qu'il y a un terrain de foot, vous pouvez atterrir. » Et puis il y avait des hommes, des sportifs qui avaient été formés, etc. Et puis, il y a un petit passage dans cet article-là, tout a été fait pour qu'en quelques minutes, il y avait un médecin, un des plus grands cardiologues du monde, qui était en train d'opérer, qui venait de terminer son opération du côté de Monaco ou de Toulon, je ne sais plus. Et il se trouve que quand il y a eu cet incident, on l'a appelé, dit bon, amenez-le, je vais voir ce que je peux faire. Une somme de circonstances jusqu'à ce que sur le terrain, il y avait un grand sportif, je crois que c'est un handballeur, et le journaliste disait il a appelé sa femme qui était très croyante. Et celle-ci a appelé l'évêque de Toulon pour activer une chaîne de prière. Là aussi, je crois qu'il y avait tous les moyens ont été mis en place pour que les choses aillent vers la vie. Je crois qu'il y a dans cet épisode-là, en plus, le journaliste a dit, on fait appel à ceux, au soutien auquel on croit, hein, en disant, elle a activé la chaîne de prière. Moi, je crois qu'il y a des circonstances dans nos vies où Dieu met toutes choses en place pour nous rencontrer et conduire notre vie, pour nous parler. Comment Dieu a mis les événements en place pour que tu sois assis ou assise à la place que tu occupes aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce qui fait que Dieu t'a amené là? Par quelle parole? Par quel chemin? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là? Comment Dieu m'a conduit jusqu'ici pour me parler, pour te parler? Je ne sais pas ce que deviendra cet homme. 4 semaines après, il est en train de commenter les matchs de football sur la 6. Je ne sais pas si la chaîne de prière fera qu'il prendra conscience que Dieu là aussi veut lui parler. Il dit que sa vie est changée parce qu'il a pris conscience de certaines choses. Est-ce qu'il a pris conscience que Dieu, là aussi, lui parle, comme il nous parle? Jonas, la parole fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Jonas, vous savez ce que ça signifie? C'est colombe. Le symbole à la fois de la paix, mais aussi de l'esprit, et surtout de l'esprit. Dans les 4 évangiles, la colombe, c'est le signe de l'Esprit Saint qui vient à la fois sur Jésus-Christ, mais aussi qui vient sur les croyants. Fils d'Amittai, vous savez ce que veut dire Amittai? Peut-être pas. Amittai, ça veut dire véridique et sincère. Jonas est appelé par Dieu et Dieu lui parle en lui disant « Voilà, j'ai quelque chose à te confier, je vais te demander quelque chose. Parce que tu es aussi une colombe, un signe de l'Esprit-Saint, moi, j'ai envie de dire que nous sommes tous porteurs de cette colombe, et parce que tu es porteur de l'Esprit-Saint, j'ai une mission à te confier au milieu du monde. Tu n'es pas là simplement à attendre la révélation du royaume de Dieu. Tu es acteur de ce royaume de Dieu au milieu du monde. Alors tu es cette colombe, cet Esprit-Saint au milieu du monde pour parler et pour agir. Et puis, tu as dans ta lignée ou dans ton identité le fait que tu es quelqu'un qui connaît la vérité et qui est sincère dans les choses qui sont et du monde et de Dieu. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes comme cela, animés par l'Esprit, qui connaissons la vérité et qui pouvons être sincères par rapport au monde pour lui dire « Voilà où tu vas, voilà ce qui est ». Le message de Dieu à Jonas, c'est « Va à Ninive, la grande ville, à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu as en toi, je t'appelle à aller. » Et Jonas refuse de porter le message qui est en lien avec son identité. Pas son identité simplement fonctionnelle, prophète, mais aussi son identité d'homme appartenant à Dieu. Nous avons dit tout à l'heure que nous avons été rachetés. Si nous sommes rachetés, a priori, nous ne nous appartenons plus. Nous lui appartenons. Alors que faisons-nous de ce que nous sommes aujourd'hui ? La colombe, c'est le symbole de l'espérance pour Noé. La fin du jugement, le commencement d'une vie nouvelle. Vous savez, il lâche la colombe et elle ne revient plus. C'est un signe d'espérance. Le jugement est passé. Est-ce que nous pouvons être, nous, pour notre part, au milieu du monde, au milieu de nos familles, de nos proches, aussi un signe d'espérance, en lui disant à l'autre, le jugement est fini en Jésus-Christ. Tout a été accompli pour une vie nouvelle. Ne sommes-nous pas, nous aussi, des Jonas envoyés par Dieu au milieu du monde, remplis de l'Esprit pour proclamer la libération des captifs? Un de mes passages que j'aime beaucoup, que j'affectionne, qui parle du Messie à venir, se trouve là aussi dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, cette colombe qui vient sur nous, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Voilà ce qui était dit du Messie à venir. Mais quand on dit du Messie à venir, j'ai envie de dire ce qui est dit de ceux qui sont les héritiers de ce Messie. C'est-à-dire de nous. Est-ce que nous sommes, nous aussi, avec cette colombe, cet Esprit du Seigneur sur moi, avec cette onction pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'envoi de Jonas à Ninive était un envoi afin de permettre à ceux qui étaient perdus d'entendre la parole de Dieu et de revenir. De revenir, c'est notre mission, aller parmi toutes les nations, proclamer le salut en Jésus-Christ et baptiser-les. Nous avons eu un baptême dimanche. Comment est-ce que nous allons continuer? Là aussi, hier, nous avions, à l'Assemblée Générale, je suis assez partagé, mais il y a un mouvement qui consiste à à mettre en place de nouveaux systèmes pour annoncer l'Évangile, pour multiplier, pour grandir, faire grandir l'Église. Alors, l'Église apostolique est, une manière non négative. L'Église apostolique souhaite développer un système qui s'appelle CIM. Alors, c'est, rappelle-moi, Corinne, CIM. Voilà, Commission d'implantation des Églises. Alors, il y a tout un système qui est très réfléchi, pensé, organisé, avec des moyens de faire, etc. Et je me dis, si Jésus avait pu avoir ce système-là, qu'est-ce qu'il aurait fait de choses extraordinaires, quand même? Je pense qu'il aurait, eu une œuvre, mais alors, beaucoup plus importante que ce qu'il a fait sur cette terre. Je le dis en souriant, parce que je crois que ce ne sont pas des systèmes. Ce ne sont pas des systèmes et des organisations ou des manières de faire codifiées qui font que la vie se répand, que l'Évangile touche. Il s'agit simplement de savoir si moi, je suis quelqu'un qui a été oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Est-ce que c'est cela, ce que je suis? Est-ce que j'ai été appelé à cela? Et est-ce que je suis rentré dans ce service? Est-ce que lorsque je croise un homme, une femme, je me dis, ce qui est le plus important dans cette personne, pour cette personne, c'est qu'elle puisse rencontrer Jésus-Christ, que je puisse lui témoigner de qui est Christ. Oh, je ne vais pas m'élever contre toutes les organisations, les systèmes, etc. Il en faut, mais ce n'est pas cela qui porte la vie. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ce monde est en ruine. Ce monde est en ruine. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, est-ce que les Anglais resteront dans l'Europe? Est-ce que nous allons réussir à maintenir, à sauvegarder l'identité européenne, etc. Malgré tout, avec nos efforts humains, on voit bien que l'homme est dans l'incapacité de construire quelque chose qui se relève de la plénitude et de ce que Dieu a pour plan pour l'être humain. Alors, est-ce que nous pouvons, nous, être de ceux qui ont été oints pour apporter de bonnes nouvelles, remplis de l'esprit, véridique et sincère? C'est cela, l'identité. Les fils d'Amittai, Jonas, ça veut dire véridique et sincère. Est-ce que je suis vrai et sincère? Alors, quand on se pose la question, on pourrait se regarder soi-même et dire, est-ce que je suis vrai et sincère? Alors, tout de suite, on pense à, oh oui, moi, je suis vrai avec ma femme, je ne lui mens jamais. Bon, je ne lui dis pas tout non plus. Quand je passe m'acheter un croissant, par exemple, je vais me confesser. Quand je vais chercher le samedi matin le pain avec les croissants pour le petit-déj, c'est le seul petit-déj, bon, je reconnais, j'en achète un en plus et je le mange dans la voiture. Mais sinon, je ne lui mens pas. Je suis vrai et sincère. Hein ? Et c'est ce que l'on se dit de soi-même. Mais en même temps, quand je parle avec les malades qui, dans notre centre, sont en situation de rechute par rapport à la consommation d'alcool, souvent, elles ont une réaction assez étrange, c'est qu'elles sont embêtées pour nous. Elles sont embêtées pour nous. Oh, je vous ai déçu. Je suis tellement triste de vous avoir déçu en reprenant de l'alcool. Ça, vraiment, j'ai rompu votre confiance et vous n'allez plus croire en moi. Je suis vraiment tellement déçu d'avoir abîmé cette relation. Et ce qu'on leur dit, mais c'est que cette déception-là n'existe pas. On n'est pas déçu. Par contre, ce qui serait important, c'est qu'elles voient en quoi elles ont abîmé leur relation avec elles-mêmes. D'être vrai avec soi-même, de ne pas tricher avec soi-même. Je veux me soigner, je ne veux plus boire, je veux me libérer de l'alcool, et en même temps je reconsomme. C'est quelque part comment cette démarche-là peut abîmer en étant sur cette position, c'est que je ne suis pas clair avec moi-même, je ne suis pas vrai, authentique avec moi-même. Quand Noé dit à cette identité de véridique et sincère, d'abord ça devrait être par rapport à lui-même, parce que si Jonas se regardait, il se rendrait compte que ce véridique et sincère qu'il devait être, il ne l'est pas, Parce qu'il est rempli de peur, de crainte. Qu'est-ce qu'il fait? On sait très peu de choses sur la raison pour laquelle Jonas tourne les talons. On en sait très peu. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas en accord avec ce qu'il devrait être pour lui-même. Et combien souvent c'est cela notre problème, de tricher avec nous. Et là, pour le coup, nous n'entendons pas. Nous n'entendons pas la voix de l'esprit qui essaye de nous parler en disant « Voilà sur quel terrain j'ai une œuvre de guérison à faire. Voilà sur quel terrain en toi j'ai une transformation à accomplir. » Nous ne l'entendons pas, voire nous ne voulons pas l'entendre. Jusqu'à ce que les circonstances, et Dieu répète, jusqu'au moment où nous acceptons de plier le genou et de dire à Dieu, accomplis ton œuvre maintenant dans ma vie. Donc, être véridique et sincère, ce n'est pas d'abord avec les autres, c'est d'abord avec soi-même, devant Dieu. Accepter de dire, je reconnais Seigneur, j'accepte. Ensuite, c'est d'être véridique et sincère par rapport à Dieu. De lui dire, je te laisse la place. Oh, nous chantons, nous le disons. Mais nous sommes tous pareils, avec aussi des retenues, avec des portes fermées, des petits coins, vous savez, ces petites pièces où il y a des choses comme ça qui restent et qu'on n'a jamais été voir et qu'on ne veut surtout pas ouvrir pour que Dieu y touche, parce que ça ferait mal, parce que ce serait désagréable. Est-ce qu'on est prêt à être véridique et sincère aussi vis-à-vis de Dieu? Parce que si ce n'est pas le cas, il y a de fortes probabilités que nous puissions nous trouver à un moment donné, comme Jonas, à tourner les talons et tourner le dos à ce qu'il attend de nous. Il est difficile de servir, de marcher avec Dieu, si on n'est pas vrai avec soi-même et avec Dieu. Ensuite, on peut être vrai et véridique vis-à-vis de l'autre, des autres, c'est-à-dire des autres, et j'ai envie de dire, par cercle concentrique, des plus proches aux plus éloignés. Parce que c'est tellement bon d'être vrai et véridique avec celui que je vois que le dimanche. Hein? Et puis d'être un soutien, et puis d'être encourageant, etc. Mais c'est tellement difficile d'être vrai et véridique avec celui qui partage ma vie, avec mes enfants. De pouvoir dire à des enfants, je te demande pardon, là j'ai pas été juste. Moi ça m'a pris du temps. Quand ils étaient petits, ça allait. Mais quand ils sont devenus 10, 12 ans, demander, je me disais, est-ce que c'est utile que je lui demande pardon de m'être trompé, de ne pas avoir été juste, etc. Ben oui, c'est important. C'est important d'être vrai avec l'autre. Comment peut-on être crédible si on n'est vrai qu'avec ceux qui sont éloignés? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par ses vertus, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que vous deveniez participants à la nature divine, dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître. Nous avons tout ce qui nous est nécessaire pour la vie et la piété, pour avancer, pour être vrai, pour servir. Alors, Jonas entend cette parole qui dit, alors qu'il devrait être, je dirais, cet homme de Dieu qui écoute Dieu, qui est vrai, qui est sincère, qui est porteur de l'Esprit, lève-toi, va, et va à. Il se trouve qu'ici, c'est Ninive. Il y a plusieurs passages où Dieu demande à l'homme de se lever. Vous pouvez penser à l'appel d'Abraham, cette paracha qu'on appelle en hébreu du Lech Lecha, va vers toi, d'abord, va vers toi, lève-toi et va vers toi. Moi, j'aime beaucoup ce texte. Mais c'est aussi quand Abraham se sépare de Lot, l'ordre de rentrer dans les promesses, « Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » C'est aussi la parole de Balaam, vous savez, ce mauvais prophète-là qui a été demandé par un adversaire d'Israël pour maudire Israël. Et Balaam qui prononce à son corps défendant la bénédiction de Dieu sur Israël et qu'il fait en ces termes dans le livre des Nombres, « C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. » Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. C'est un peuple qui se lève. Est-ce que nous sommes un peuple qui nous levons, collectivement et individuellement? Lève-toi pour entrer dans les promesses, dit Dieu à Josué. Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays. Est-ce que nous sommes prêts à nous lever pour entrer dans notre pays ? Souvent, je dis aux patientes que nous accompagnons, votre vie, c'est votre pays. Est-ce que vous êtes prêtes à rentrer dans votre pays, à vous saisir de votre vie et à faire qu'elle devienne ce qui est le meilleur pour vous ? Lève-toi ! Et puis, ce sont des paroles qu'on entend dans l'Évangile, où Jésus va saisir la main d'une jeune fille, Talita Kumi, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Il y a des jeunes filles parmi nous ? Je regarde. Jeune fille, lève-toi, il n'y en a qu'une. Ah non, deux, excusez-moi. Excuse-moi, je ne t'ai pas vu, Anne. Donc là, vous vous sentez visé, là. Jeune fille, lève-toi. Mais les vieux aussi, les plus âgés, les adultes. Lève-toi, dit Jésus. Et puis, c'est dans les Actes des apôtres, les apôtres qui disent à un homme, je n'ai ni argent ni rien, mais lève-toi. Lève-toi, c'est la part de l'homme. Lorsque nous entendons Dieu qui nous dit, voilà, lève-toi, ça veut dire aussi que ce n'est pas lui qui le fera à notre place. Le fait de se lever, c'est un signe d'adhésion, un mouvement dans lequel on dit, je crois et je me mets en route. Ah oui, des fois, j'entends parfois depuis tellement de nombreuses années, des personnes qui prient, qui disent, Seigneur, agis, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Le Seigneur dit, bon, bah, moi je le fais, il n'y a pas de problème, lève-toi. Lève-toi. Puis on reste assis, puis on dit, Seigneur, continue, je vais prier jusqu'à ce que tu as... Mais ça ne sert à rien si je ne me lève pas à un moment donné pour rentrer dans les promesses de Dieu. Lève-toi. Ah, il y a un lien entre la foi et l'obéissance. Il ne peut pas y avoir de foi sans obéissance. Je peux dire, je crois que Dieu peut accomplir des miracles, mais si à un moment donné, je n'obéis pas pour rentrer, c'est ce que fait Jonas. Il a la foi en un Dieu vivant qui parle, mais il n'y a pas l'obéissance qui va avec. Il ne peut pas y avoir d'obéissance non plus sans foi, parce que si on est dans de l'obéissance sans foi, alors on est dans une soumission d'esclave. Or, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Il veut qu'il y ait la foi et l'obéissance, et qu'à un moment donné, quand il dit « lève-toi », nous nous levions et que nous allions dans la direction qui nous est donnée. Même si cette direction, c'est une direction qui ne nous plaît pas. Hein, il dit « va à Ninive ». J'ai regardé sur les dictionnaires, Ninive, une ville où il est dit que les murs faisaient pratiquement 80-90 kilomètres. Ils ont fait des recherches archéologiques, c'était un truc immense. Va à Ninive. Bon, moi, tu sais, Paris, Seigneur, Kevin, ça va bien, mais Paris, c'est trop grand. Hein? Va à Ninive. Va dans la direction que moi, je te demande d'aller. Et Jonas, il fait le contraire. Va à l'ouest. Va à l'est, et Jonas va à l'ouest. Et il va partir vers Tarsis. J'aime bien les mots, moi, parce que je me trouve toujours que dans les mots, il y a des choses qui ne relèvent pas toujours du hasard. Vous savez, quand vous avez Elimelech et Naomi qui habitent à Bethléem, la maison du pain, et qui ont un temps de famine, je dis, comment peut-on être en famine dans la maison du pain ? S'il y a quelque chose là qui m'interpelle. Et là, pour Jonas, il s'en va vers Tarsis, et il s'arrête à Jaffo, ça veut dire beauté. Il ne va pas à Ninive, mais il va quand même à beauté. Quelque chose qui lui plaît, qui doit être agréable. On ne porte pas ce nom-là sans que ça parle de quelque chose. Donc il n'a pas obéi. Ninive, c'est trop grand, il y a trop d'animation, c'est rempli d'adversaires, etc. Non, je suis allé à Jaffo. Ah, ça c'est beau. Ah, là je suis bien. Ah, je ne suis pas dans la pensée du Seigneur. Mais c'est agréable. Et combien parfois nos actes de désobéissance nous font choisir ce qui est beau et facile. Moab, c'était ça. C'est beaucoup plus agréable d'être en Moab, où il y a du blé, du pain pour l'instant, plutôt que de rester ou d'obéir et d'être à Bethléem, dans la maison du pain, à un moment difficile. Choisir la facilité, choisir ce qui est beau pour moi, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut nous voir prendre comme valeur pour dire, voilà comment je vais conduire ma vie et mon chemin. Parfois, il y a des vallées sombres, difficiles. L'important, ce n'est pas de savoir si c'est beau ou pas pour moi, ou bon ou pas pour moi, c'est de savoir si je suis prêt à traverser ces moments difficiles, la main dans la main avec mon Seigneur. Et puis, Tarsis, c'est un espace qui est aussi une grande cité industrielle, où il était réputé notamment pour l'or et l'argent, les feuilles d'or et d'argent. Ah, mieux vaut Tarsis que Ninive. Et parfois, dans nos vies, mieux vaut les choses plus faciles et agréables que d'accomplir la volonté du Seigneur. Et je terminerai juste avec ce petit mot, c'est « Il trouva un navire qui allait à Tarsis et il paya le prix du transport. » Il y a toujours un prix à payer. Le fait de ne pas être dans l'obéissance de Dieu, il y a toujours un prix à payer. On doit toujours, assumer la facture derrière. Parce que quand on s'est éloigné et qu'on tourne le dos aux promesses de Dieu, on tourne aussi le dos à ce qu'il y a de meilleur pour nous. Même si on se dit, oui, mais c'est beau, c'est riche, c'est moins difficile. Ouais. Mais il y aura un prix à payer à la désobéissance ou au fait de ne pas vouloir emprunter le chemin du Seigneur. Et ce prix peut être plus ou moins élevé. Maintenant, est-ce que je suis prêt, là aussi, dans le texte de Jonas, vous connaissez l'histoire ensuite, même si je tourne le dos aux promesses de Dieu, Dieu s'obstine. Oh, il envoie même un poisson pour avaler Jonas pendant 3 jours et 3 nuits. Là, on peut parler du signe de Jonas dans le Nouveau Testament, qui fait penser à l'ensevelissement de Christ pendant 3 jours et 3 nuits. Mais on peut penser aussi au fait que nous puissions, parce qu'on ne fait pas les choix de Dieu, être enfermé dans les ténèbres. Et pourtant, même là, c'est Dieu qui agit. Je ne sais pas quel poisson c'était, parce qu'on a toujours dit qu'il y a des baleines, il y a des fanons, donc on ne peut pas passer. Je ne sais pas quel poisson, mais en tout cas, le récit dit, Dieu agit et va jusqu'au bout pour faire revenir, pour combattre l'obstination de l'homme et lui permettre de revenir dans ses voies. Et ça me rassure. D'avoir un Dieu tel que cela. Alors, face à l'histoire de Jonas et à ce récit, puissions-nous, chacun pour notre part aussi, nous dire, voilà, est-ce que j'entends bien ce que Dieu me dit? Est-ce que je dois changer la pile? Est-ce que je dois être plus attentif? Est-ce que je dois remettre en cause la direction que je donne à mon existence? Est-ce que je ne veux pas revenir à lui, là aussi, dans toutes mes voies? Seigneur, nous voulons te demander par ton esprit.